Je t'aime sont probablement les deux mots les plus doux de la langue française, soit qu'on les entend, soit qu'on les prononce. Est-ce que tout le monde a expérimenté un certain degré d'amour ou d'affection, au moins une fois dans sa vie? C'est merveilleux, mais relativement banal, car très fréquent dans l'expérience humaine. Par contre, ce qui est totalement inhabituel, c'est de s'entendre dire par un ange qu'on est bien aimé de Dieu. Là, ça décoiffe. Eh bien, c'est exactement ce que le prophète Daniel a entendu dire de lui à deux reprises. Je continue de lire dans le chapitre 10 du livre de Daniel. Alors, une main me toucha, et elle me fit me redresser tout tremblant sur mes genoux et sur les paumes de mes mains. Puis il me dit, « Daniel, homme bien-aimé de Dieu, sois attentif aux paroles que je t'adresse. Mets-toi debout, où tu es, car j'ai été maintenant envoyé vers toi. » Pendant qu'il prononçait ces mots, je me relevais tout tremblant. Daniel est jugé digne de recevoir cette vision et de la communiquer à ses contemporains. Mais le processus n'est pas du tout repos. En effet, il voit d'abord la gloire de Dieu au-dessus du fleuve Tigre, gloire qui le terrasse au point où il s'effondre. Mais l'aide-de-camp et porte-parole de l'ange de l'Éternel, qui est probablement Gabriel, vient auprès de Daniel, et le texte dit « Une main me toucha. Elle me fit me redresser tout tremblant sur mes genoux et sur les paumes de mes mains. » Maintenant donc, l'ange rassure Daniel en lui disant qu'il est bien aimé de Dieu, afin de l'encourager et de le préparer à écouter le message qui concerne la suite des temps. Puis l'ange l'exhorte à se lever afin d'entendre la prophétie. Daniel, qui est d'abord passe contre terre, puis à quatre pattes, se met enfin debout, mais il tremble comme une feuille, tellement la vision de la gloire de l'Éternel qu'il a vue au-dessus du fleuve l'a secoué. Décidément, être prophète de l'Éternel n'est pas une sinécure. Je continue. Il, l'ange, poursuivit. Sois sans crainte, Daniel, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, ta prière a été entendue, et je suis venu vers toi en réponse à tes paroles. C'est la seconde fois qu'un ange dit à Daniel que dès qu'il commence à prier, la réponse est en route. Ça doit être très encourageant de savoir que Dieu est attentif à son intercession et met immédiatement en œuvre son exaucement. Plus loin, le texte précise que ce qui tient Daniel en souci est l'avenir de son peuple suite à la vision qu'il a reçue. Une grande guerre encore à venir. Je continue. Mais le chef du royaume de Perse est opposé à moi durant 21 jours. Alors, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide et je suis resté là auprès des rois de Perse. C'est le genre d'information qui vous coupe le souffle et vous laisse pantois parce que ses implications sont troublantes. Comme un roi n'est qu'un simple homme, il ne peut pas se battre contre un ange. Le chef du royaume de Perse est donc un être spirituel à la solde de Satan. Ici, le Saint-Esprit lève partiellement et momentanément le voile qui nous cache le monde invisible afin que nous puissions voir que, dans l'au-delà aussi, il y a des luttes entre les puissances du bien et du mal, entre la lumière et les ténèbres, entre Dieu et le diable. Il existe bel et bien des forces célestes sataniques. Dans son épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul écrit « Nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. » L'univers est beaucoup plus complexe que le monde matériel qui nous entoure et auquel nous avons accès par nos cinq sens. Dans son principe donc, la prière de Daniel est exaucée dès le premier jour où il a eu à cœur de s'humilier devant Dieu. Mais l'information que donne Gabriel explique pourquoi la réponse qu'il apporte a été retardée. Pendant 21 jours, qui correspond aux 3 semaines de jeûne et de prière de Daniel, l'ange a été obligé de combattre une puissance hostile qui est le chef du royaume de Perse, parce que ce dernier lui barrait la route. En d'autres mots, avant de pouvoir arriver jusqu'à Daniel, l'ange a dû traverser les lignes ennemies. Si on rassemble les différents renseignements que Dieu nous donne dans ce chapitre, ici et un peu plus loin, ceux du chapitre 8, du chapitre 12 et du livre de l'Apocalypse, on apprend que Satan a placé un démon de haut rang à la tête de chaque État afin qu'il lui inspire sa politique, préside à son développement selon les plans du diable et influence les différentes générations contre Dieu et son peuple de toutes les manières possibles, par la philosophie, la religion, la fausse science, les arts, la musique, l'économie et que sais-je encore. Israël est différent des autres nations et son ange gardien est fidèle à Dieu. Il s'agit de Michaël, dont le nom signifie « qui est semblable à Dieu ». Sa fonction essentielle est de rappeler au peuple élu que l'Éternel est le Dieu unique et vrai. Michaël est aussi l'un des principaux chefs, ce qui explique pourquoi Jude l'appelle archange. De plus, dans le livre de l'Apocalypse, il est écrit que Michaël et ses anges combattirent contre le dragon. Ce qui montre bien qu'il est d'un rang plus élevé qu'un simple ange. Comme je l'ai déjà dit, en même temps que Dieu a créé les anges, il les a organisés en une hiérarchie, un peu comme une armée, ce qui apparaît dans plusieurs passages des Écritures. Par exemple, dans son épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul écrit « Dieu nous a fait connaître sa puissance en le ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. » Jusqu'à présent, nous savons que quand Daniel a eu à cœur de savoir ce qu'il adviendrait de son peuple dans la suite des temps et qu'il se mit à prier, Dieu a envoyé Gabriel avec la réponse. Mais à peine cet ange s'est-il mis en route qu'un prince infernal appelé chef du royaume de Perse lui barre la route au point. Au lieu de se rendre auprès de Daniel d'un coup d'aile, il doit lutter pendant les 3 semaines que dure la prière de Daniel. Finalement, Michaël, l'archange assigné à Israël, et qui est aussi l'un des principaux chefs des puissances combattantes, le monde angélique, fidèle à Dieu, arrive à la rescousse. Mais on ne nous dit pas pourquoi il a tant tardé. Cette histoire suscite bien des questions. Même si Dieu a soulevé un coin du voile qui nous cache le monde invisible, on ne sait vraiment pas grand-chose. En tout cas, l'arrivée de Michaël, qui se jette dans la mêlée du côté de Gabriel contre le prince infernal, permet aux deux anges de triompher de ce démon qui est contraint de laisser passer Gabriel. Grâce à cette victoire, il peut d'une part arriver jusqu'à Daniel et d'autre part, il peut reprendre son ministère dans les hauts lieux politiques auprès des rois perses qui succèdent à Cyrus, afin de les influencer pour le bien de la nation d'Israël et aussi contrecarrer les projets de Satan. Effectivement, selon les livres d'histoire, la plupart des monarques perses sont favorables aux exilés israélites. L'exception est Cambyse II, dont j'ai déjà parlé et qui, selon l'historien grec Hérodote, est un être ignoble, un tyran qui mène une vie dissolue, un ivrogne qui fait des crises de folie éthylique pendant lesquelles il commet des sacrilèges et des actes de cruauté. Comme il est hostile aux cultes étrangers, il s'oppose aussi à la reconstruction du temple de Jérusalem. Bien que Michaël et Gabriel aient triomphé des puissances des ténèbres dans les hautes sphères spirituelles, la lutte se poursuit, car plus loin, Gabriel dit à Daniel, que sur le chemin du retour, il va devoir affronter à nouveau le chef du royaume de Perse et plus tard, le chef de la Grèce. Nous en sommes toujours aux premières paroles de Gabriel à Daniel au moment de son arrivée. Il est venu pour lui révéler les calamités et les guerres qui attendent son peuple et qui dureront jusqu'à la venue du prince de la paix, Jésus-Christ, le Messie. Face aux révélations extraordinaires de ce texte, on peut vraiment dire que la réalité dépasse la fiction. Ce passage est directement applicable à notre vie de tous les jours, car il nous enseigne que la prière fervente est une lutte, ce qui est aussi la façon dont l'apôtre Paul l'envisage. En effet, quand il dit à l'église de Rome d'intercéder pour lui, il écrit « Je vous le demande, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour que donne l'Esprit, combattez avec moi en priant Dieu pour moi. » Or, la racine du mot grec qui est traduit par « combattre » a donné « agoniser » en français. C'est tout dire. La prière n'est ni un jeu d'esprit, ni de la belle prose, ni une énumération de ses connaissances théologiques, mais une bataille dans laquelle on se donne à fond, corps et âme, parce qu'on doit lutter contre les puissances des ténèbres qui, de diverses manières, essayent de nous empêcher de crier à Dieu et d'accomplir sa volonté. Il ne faut pas cependant se tromper d'adversaire. L'intercession pour les non-croyants, afin qu'ils acceptent Jésus-Christ, est une lutte, non contre eux, mais contre les idées, les opinions, croyances auxquelles ils adhèrent, car celles-ci le sont influées par une culture et une éducation contrôlées par des esprits diaboliques. Dans sa seconde épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul écrit « Sans doute, nous sommes des hommes et nous vivons comme tels, mais nous ne menons pas notre combat d'une manière purement humaine, car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Quand quelqu'un place sa foi en Jésus-Christ, il est automatiquement enrôlé dans son armée et se trouve propulsé dans une lutte face à un ennemi invisible. Il doit combattre avec des armes spirituelles. À l'église d'Éphèse, l'apôtre Paul écrit « Tenez donc ferme. Ayez autour de la taille la vérité pour ceinture et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussures à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pouvez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'esprit. Faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. » Je continue maintenant le texte du chapitre 10 où Gabriel dit à Daniel « Je suis venu pour te faire comprendre ce qui arrivera à ton peuple dans la suite des temps, car c'est encore une vision qui concerne ce temps-là. » La révélation que va recevoir Daniel concerne le peuple de Daniel, c'est-à-dire Israël, et cette prophétie s'accomplira dans un avenir qui est compris entre le moment où elle est donnée et la fin des temps, qui se termine par la grande tribulation, le jugement de l'Antichrist et l'instauration du millénium, avec à sa tête Jésus-Christ comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Cela dit, l'horizon prophétique de chaque vision qui est communiquée à Daniel est plus ou moins éloigné selon l'époque où il la reçoit et le moment où les événements annoncés doivent se réaliser. Je continue. Pendant qu'il m'adressait ces paroles, je baissais la tête et je restais muet. Gabriel est prêt à révéler l'avenir à Daniel, mais le pauvre n'est pas en état de le recevoir parce qu'il est encore sous le choc d'avoir appris le conflit entre les puissances spirituelles, auxquelles s'ajoute la douleur de savoir que son peuple devra encore endurer bien des souffrances. Il faut dire que Daniel est en train de vivre un moment particulièrement difficile. Alors, submergé par l'émotion, au lieu de dire à l'ange « parle », il déprime, baisse la tête et reste silencieux. Je continue. Et voici que quelque chose qui avait l'aspect d'une main humaine me toucha les lèvres. Alors, je pus de nouveau ouvrir la bouche et parler. Adressant au personnage qui se tenait devant moi, je lui dis, « Monseigneur, cette apparition me remplit d'angoisse au point de m'ôter toute force. » Cet incident me rappelle deux autres dans les Écritures. L'Éternel qui a touché les lèvres du prophète Jérémie et Jésus-Christ qui a touché la langue d'un sourd muet. Ce n'est pas Gabriel qui touche de sa main les lèvres de Daniel, mais l'ange de l'Éternel que Daniel a vu précédemment au-dessus des eaux du fleuve Tigre. Ainsi que dans ses visions nocturnes, quand il a dit « Sur les nuées du ciel, je veux venir quelqu'un semblable à un fils d'homme. » Daniel peut désormais parler, mais c'est pour exprimer sa faiblesse et son angoisse. Je continue. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur, alors que je n'ai plus aucune force et que j'ai perdu le souffle? Daniel se déclare le serviteur de celui qui lui a touché les lèvres, mais dit ne pas pouvoir parler à Gabriel parce qu'il est épuisé et démoralisé. Il faut remarquer que ce passage ne précise pas l'identité des deux personnages qui sont en interaction avec Daniel. Il est cependant logique de penser que celui qui est venu le voir avec Gabriel, et le texte ne le dit jamais non plus, l'autre est très probablement celui qui est semblable à un fils d'homme. Mais lui non plus, il n'est pas identifié dans ce passage. Je continue. De nouveau, quelque chose qui avait l'aspect d'une main humaine me toucha et me fortifia. C'est encore le personnage semblable à un fils d'homme qui intervient. Ce toucher surnaturel donna à Daniel la force intérieure qui lui permet de se ressaisir. Je continue. Il me dit, « Sois sans crainte, homme bien-aimé de Dieu, que la paix soit avec toi. Fortifie-toi et prends courage. » Pendant qu'il me parlait, je repris des forces et je lui dis, « Que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. » Daniel a déjà été appelé « homme bien-aimé de Dieu » à trois reprises. La première fois, on sait qu'il s'agissait de Gabriel. Deuxième fois, et ici, le personnage n'est pas identifié, mais il est probable que c'est toujours Gabriel. Maintenant que Daniel a été fortifié par l'ange de l'Éternel, il est ouvert à l'encouragement qui lui procure Gabriel et se dit prêt à entendre la révélation qui va suivre. Je continue. Il me dit, « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi ? Je suis sur le point de m'en retourner pour combattre contre le chef de la Perse, et quand je partais, le chef de la Grèce apparaîtra. L'ange Gabriel a profité de la venue de l'archange Michaël pour traverser les lignes ennemies et se rendre auprès de Daniel pour remplir sa mission. Mais sa tâche, une fois accomplie, il doit retourner combattre les puissances diaboliques hostiles au règne de Dieu. Gabriel n'est donc pas seulement un messager, mais aussi un soldat tout autant que Michaël. Après une première victoire, les forces angéliques doivent s'assurer que le chef de la Perse ne puisse pas influencer négativement le cœur des rois perses afin qu'ils restent bien disposés à l'égard d'Israël, ce qui dans une large mesure fut le cas, mais pas entièrement. Cambyse II s'est fortement opposé aux Juifs et Esdras et Néhémie décrivent les nombreux obstacles que leurs ennemis placèrent sur leur route afin d'entraver la reconstruction du Temple puis de Jérusalem. Par ailleurs, le livre d'Esther raconte le sinistre complot d'Aman qui, sous le règne du roi perse Xerxès, essaya d'exterminer tous les Juifs qui se trouvait en Perse. Mais toutes ces difficultés furent providentiellement aplanies par Dieu. Gabriel parle également du chef de la Grèce, une allusion à l'émergence de l'empire d'Alexandre le Grand, le troisième royaume de trois prophéties précédentes. Et celui qui succède à la Perse, le deuxième royaume prophétisé. Tout comme le chef de la Perse, le chef de la Grèce est un démon de haut rang, chargé d'influencer ce pays dans une voie conforme au plan de Satan. Grâce au soutien de l'archange Michael, Gabriel a lutté avec succès contre le chef de la Perse. Mais ensuite, il devra faire face à son successeur et nouvel adversaire, le chef de la Grèce. Lui aussi doit être combattu avec acharnement, car il se révélera plus dangereux que le chef de la Perse. En effet, on a déjà appris dans une prophétie antérieure que Antiochus IV Épiphane, l'un des héritiers d'Alexandre le Grand, sera animé d'un esprit diabolique bien plus hostile aux Juifs que Cambyse II, le pire des rois de Perse. Je finis de lire le chapitre 10 du livre de Daniel. Mais auparavant, je vais te révéler ce qui est écrit dans le livre de vérité. Personne ne me soutient contre tous ses adversaires, excepté Michael, votre chef. Gabriel doit repartir combattre d'abord le chef de la Perse, puis celui de la Grèce, et il ne peut compter que sur le soutien de Michael, ce qu'on ne comprend pas vraiment, mais qui apparemment ce que Dieu veut. Au final, on se rend compte qu'on ne sait pratiquement rien concernant ce qui se passe dans l'au-delà. Au fur et à mesure qu'on avance dans la révélation que Gabriel apporte, le mystère s'épaissit. Cependant, l'ange ne quitta pas Daniel avant de lui avoir fait connaître l'issue glorieuse de toutes ses luttes. Le livre de vérité que mentionne Gabriel contient tous les décrets divins où les événements de l'histoire humaine ainsi que leur aboutissement sont consignés d'avance. Dans ce livre figurent sans doute aussi les noms des grands de ce monde qui, d'un point de vue humain, ont fait l'histoire, mais dans la réalité. Ce n'étaient que des pions sur l'échiquier du dieu souverain.